VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes au Nigeria. Au moins 2 morts, un civil et un soldat et 25 personnes enlevées. Tel est le bilan d'une embuscade tendue par le groupe djihadiste Boko Haram mardi après-midi contre un convoi escorté par l'armée près de la frontière avec le Cameroun. C'est ce qu'annoncent aujourd'hui des sources sécuritaires. Le convoi de véhicules civils se rendait à Maïdougouri, chef-lieu de l'État de Borno, et il a été attaqué près de la ville de Gouaza. Selon Ibrahim Liman, responsable des milices civiles qui combattent aux côtés de l'armée nigériane, un bus transportant environ 25 personnes a été emmené par les assaillants, qui seraient des combattants de la faction d'Aboubakar Shekau, très actifs dans la région de Gouaza, située près de la forêt de Sambisa, un des bastions de Boko Haram. Les otages auraient été conduits dans la forêt en question. Des milliers de personnes ont été enlevées par Boko Haram depuis le début de l'insurrection en 2009. Pour Burkina Faso, 2 soldats ont été tués tôt mercredi matin lorsque leur véhicule a sauté sur une mine dans l'est du pays. Il y a une semaine, 7 militaires avaient déjà été tués dans la même région et dans les mêmes circonstances. Une insécurité qui inquiète les Burkinabés. Pour Ismaël Diallo, ancien fonctionnaire international et ancien commissaire de police, joint par Bagassi Koura Ouagadougou, le gouvernement burkinabé n'a pas encore trouvé les réponses appropriées à la situation.
Elle est au-delà de la préoccupation, elle est maintenant tragique, tout simplement. Nous perdons de jeunes soldats pratiquement tous les jours à présent. Nous n'avons pas l'initiative du combat. Et c'est cela qui fait l'échec de notre situation.
Et pourtant, le gouvernement avait annoncé quand même des mesures fortes. Hein?
On attend de les voir. Les mesures fortes, c'est dans le renseignement. Bon, cela ne se dit pas, cela se prouve en neutralisant l'ennemi avant qu'il n'attaque ou en faisant en sorte que dès qu'il attaque, il est mis en déroute et neutralisé dans tous les sens du terme. Mais mieux, il faut prendre de l'avance sur lui. Il faut aller vers lui et il faut le harceler et il faut le détruire. On n'a plus le luxe aujourd'hui d'attendre qu'il attaque et qu'on riposte même soi-disant vaillamment. Ceci est déjà un échec quand on est dans la position de riposte.
Ça fait la énième attaque dans cette région de l'Est, dans la Kompienga. Et on a vu cette note du directeur de la police régionale qui signale qu'il n'a même pas un seul véhicule roulant.
Oui, cela doit être vrai, hélas. Et la note du directeur régional de la police est très détaillée. C'est un professionnel qui connaît son travail et qui a une très belle lecture de la situation. Il pose le diagnostic et il fait des suggestions sur quoi faire. Bah, il faudrait simplement qu'on l'entende et qu'on suive ce qu'il a dit, qu'on lui donne les moyens de contrer tout cela. Et dans sa lettre, il dit bien qu'apparemment, ce sont des personnes venues de pays voisins à moto de grosses cylindrées et quelquefois même avec des véhicules 4x4. Comment est-ce que nous sommes incapables de prévenir l'incursion de ces orques-là et les mettre hors d'état de nuire?
Et on a aussi vu que ces actes terroristes qui étaient d'abord concentrés dans le nord ont vraiment évolué, sont à l'est et aussi au sud du pays.
Oui, quelle que soit la personne ou les personnes morales ou physiques qui instrumentalisent, qui pensent, qui initient, qui inspirent, qui instrumentalisent ces actions, ce sont des opérations coordonnées. Et ce sont des opérations à long terme. C'est une stratégie qui répond à une philosophie, à un plan d'action très clair. C'est harceler nos troupes, les mettre en déroute partout où nous sommes et nous amener à rendre les armes pratiquement. Et puis peut-être occuper certaines parties du territoire. Cela n'est pas du tout exclu.
Ismaël Diallo, joint à Ouagadougou par Bagassi Koura. Afrique centrale maintenant, Ebola en République démocratique du Congo. Le directeur général de la riposte à l'épidémie en cours dans l'est du pays, le docteur Bart Njoloko, confirme qu'une personne est décédée du virus à Boutembo dans le territoire de Beni, la seconde ville de la province du Nord Kivu. C'est le premier cas mortel confirmé dans cette grande agglomération de près de 700 000 habitants. L'épidémie a déjà fait au moins 85 morts, dont 54 cas confirmés dans le territoire de Beni, selon les statistiques publiées par le ministère congolais de la Santé. RDC toujours, la société civile dans l'est du pays s'inquiète de plus en plus de la recrudescence des enlèvements de civils avec demande de rançon. Pour sa part, l'armée nationale congolaise accuse des jeunes de complicité avec les groupes armés. Le point avec Morgane Guiriec.
En 10 jours, 8 personnes ont été enlevées dans la plaine de Rudzizi, près de la frontière avec le Burundi, selon Claude Missaré, coordonnateur de la société civile à Uvira. Mardi, 3 commerçantes et leur chauffeur ont été enlevés à Rushima, toujours dans le sud Kivu. 2 agents de la Direction générale des douanes ont été enlevés au poste frontalier de Vugizo sur la rivière Rusizi qui sépare la RDC du Burundi. Selon M. Missaré, les ravisseurs exigent 15 000 dollars pour leur libération. Aimable Massoumbouko, militant de la société civile et le chef de la localité de Moutarlé, sont portés disparus depuis une semaine. Ils étaient partis remettre une rançon pour faire libérer d'autres otages, selon André Biadounia Machaka, président de la jeunesse d'Ouvira. Un porte-parole de l'armée a accusé des jeunes de la région d'être complices de ces enlèvements, ajoutant que l'armée prend ses dispositions pour démanteler ce réseau et sécuriser la plaine de Rusizi.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Érythrée, réouverture de l'ambassade d'Éthiopie à Asmara, la capitale, dans le cadre de la spectaculaire réconciliation intervenue entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique après des années de tension. Le président érythréen Isaias Afwerki et le nouveau premier ministre éthiopien, le réformateur Abiy Ahmed, ont personnellement rouvert la mission éthiopienne lors d'une brève cérémonie aujourd'hui. Les deux leaders avaient signé en juillet un accord de paix mettant officiellement fin à une longue période d'hostilité. M. Abiy Ahmed est en Érythrée depuis mercredi pour sa deuxième visite depuis son arrivée au pouvoir en avril. Il a visité les principaux ports sur la mer Rouge avant de gagner Asmara. Soudan du Sud, une cour martiale sud-soudanaise a reconnu aujourd'hui 10 soldats coupables de viol de travailleurs humanitaires et aussi du meurtre de journalistes lors des combats à Djouba, la capitale, en juillet 2016. Le tribunal militaire a jugé que les accusés étaient coupables en raison de leur responsabilité directe dans ces crimes, a déclaré le juge Knight Bariano Almas, qui a énuméré les accusations de viol, meurtre, pillage et destruction formulées contre les prévenus. Au Maroc, les autorités marocaines ont annoncé le démantèlement d'une cellule terroriste composée de 3 membres et affiliés à l'organisation État islamique. Les suspects âgés de 25 et 26 ans et basés dans les villes de Tétouan dans le nord et Agadir dans le sud avaient prêté allégeance à l'émir de cette organisation Aboubakar al-Baghdadi, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. Les suspects projetaient de perpétrer des opérations terroristes dans le royaume à l'aide d'engins explosifs et de produits toxiques, souligne le communiqué. La France réclame des élections le 10 décembre en Libye. Paris estime essentiel d'organiser des élections dans le calendrier agréé en mai pour la Libye, à savoir des élections présidentielles et législatives le 10 décembre qui permettront de sortir du statu quo, a déclaré mercredi l'ambassadeur de France à l'ONU, François Delattre. Actualité américaine maintenant, ici à Washington, nouvelle controverse autour de la présidence de Donald Trump. Le chef de l'exécutif américain a demandé hier soir au New York Times de lui remettre immédiatement, pour poursuite, le nom d'un haut responsable de son administration dont la tribune anonyme Fort Critique a été publiée mercredi par le grand quotidien américain. Les détails avec Arnold Botson.
Dans son tweet, M. Trump s'est posé des questions sur l'existence même de ce haut responsable et s'est demandé s'il ne s'agissait pas d'une autre source fausse inventée par le journal qu'il a qualifié de très malhonnête. Auparavant, il avait écrit un tweet composé d'un seul mot en majuscule « trahison ». M. Trump a dénoncé un texte lâche. Dans sa tribune anonyme, le haut responsable en question explique pourquoi et comment il s'efforce, avec d'autres, de lutter de l'intérieur contre, je cite, « les pires penchants du président américain ». Il a dit que le cœur du problème, c'est ce qu'il a appelé « la moralité du président ». La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, s'est déclarée déçue, mais pas surprise, par la décision du New York Times de publier ce texte, dénonçant une tribune pathétique, irréfléchie et égoïste. La veille, les médias avaient publié de larges extraits d'un livre explosif du journaliste d'investigation Bob Woodward, qui dresse le portrait d'un président colérique et paranoïaque que ses collaborateurs s'efforcent de contrôler, voire de contourner, pour éviter, écrit-il, de dangereux dérapages.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.